Il est 8h. Le journal Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Ils vont ressortir leurs chasubles et leurs slogans. Retour des gilets jaunes dans la rue demain, un an après le début de leur mouvement. Entre-temps, il y a eu le grand débat national. Rétrospectivement, qu'en pensent ceux qui ont participé? Qu'a-t-il changé sur le terrain? On verra ça dans un instant. 300 000 foyers sans électricité ce matin dans la vallée du Rhône. Conséquence des fortes chutes de neige d'hier. La situation est aussi très dégradée dans les transport ce matin. À la une également Ségolène Royal et les pôles. En quoi consiste au juste sa mission d'ambassadrice? Révélation de la cellule investigation de Radio France. Et puis l'Europe au menu du grand entretien dans 20 minutes. C'est l'homme du Brexit qu'on attend dans ce studio.
Oui, le négociateur en chef du Brexit pour l'Union Européenne, Michel Barnier au micro d'Inter dans le grand entretien de la matinale. Vous pouvez évidemment dialoguer avec lui au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et l'application mobile de France Inter.
Et dans ce journal, l'huile de palme utilisée pour faire du carburant, elle devait être davantage taxée l'an prochain. Finalement, ce ne sera pas avant 2026. Et London Calling, le disque mythique des Clash à 40 ans, une exposition, le célèbre à Londres.
France Inter.
Gilets jaunes, acte 53, l'anniversaire sur les Champs-Élysées. Voilà pour le titre de l'événement Facebook le plus rassembleur à la veille de ce retour dans la rue. Mais on imagine mal une autorisation de la préfecture à cet endroit qui prévoit déjà de larges périmètres d'interdiction dans Paris quand le ministère de l'Intérieur a mobilisé de gros renforts de CRS partout en France demain. Il flotte donc comme un air de déjà-vu un an après le début du mouvement des Gilets jaunes. Depuis, l'État a mis la main au portefeuille, 17 milliards d'euros pour éteindre l'incendie et lancer un grand débat national avec des réunions sur tout le territoire, comme à Marigny-l'Église, un village du nord du Morvan, 300 habitants, dont plus d'une soixantaine ont participé aux réunions publiques organisées début janvier. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? C'est le dernier épisode de notre série sur la route des Gilets jaunes, signé Thibault Lefèvre.
Michel et son mari Jean-Pierre ont été de bons élèves du grand débat.
Vous avez votre dossier grand débat?
Oui, j'ai mon dossier grand débat.
C'est moi qui ai fait la recherche sur Internet?
On a répondu à tout ça.
Vous avez fait ça très sérieusement?
Très sérieusement, oui.
Environ une demi-journée de travail.
On avait demandé la taxation des GAFA.
Pour réfléchir, échanger, rédiger, puis partager ce que ces deux retraités de gauche, convaincus par Emmanuel Macron en 2017, pensaient bon pour réformer la France.
Ménage à faire dans les commissions gouvernementales.
On n'en retire rien du tout.
J'ai pensé que ça servait à quelque chose, mais avec le recul, je trouve que ça a servi à rien.
On a rempli des pages qui n'ont servi à rien, point à la ligne.
À Marigny-l'Église, il n'y a plus d'école depuis 7 ans, plus de médecins depuis 3 ans. Il reste un bar-restaurant qui fait aussi épicerie et poste. Et évidemment, la mairie ouverte 4 demi-journées par semaine. Depuis 6 ans, Philippe d'Auvergne est le maire sans étiquette du village.
Ça a servi à montrer aux gens qu'ils peuvent avoir la parole. J'ai découvert des gens intéressants. Il y a des gens qui ne sont pas de mon bord politique. Moi, je suis quelqu'un de gauche, qui m'ont semblé très très intéressant, à qui j'ai demandé effectivement de faire partie de la liste pour l'an prochain.
Ce grand débat, c'était un grand casting.
C'est peut-être tombé au bon moment.
Philippe d'Auvergne présente une liste de 11 candidats aux municipales de mars prochain, dont la moitié ont été choisis à l'issue du grand débat.
Sur la route des Gilets jaunes, série signée à Thibault Lefèvre à réécouter sur franceinter.fr. Un an plus tard, ce sont des mouvements sociaux classiques qui occupent le terrain, celui des cheminots et de la RATP à partir du 5 décembre, celui des personnels des hôpitaux largement mobilisés hier. C'est Emmanuel Macron lui-même qui leur promet un vaste plan pour mercredi prochain. Le président de nouveau en première ligne pour faire baisser la tension. Ça n'est pourtant pas, Cyril Graziani, la stratégie qui avait été définie à l'Élysée.
Il y a quelques jours, un proche conseiller d'Emmanuel Macron résumait ainsi l'acte 2 du quinquennat. Selon lui, désormais, le président n'a pas vocation à être le pompier et le gestionnaire de crise. Pourtant, hier dans la Marne, après les manifestations des personnels hospitaliers partout en France...
J'ai entendu leur colère et leur indignation.
Une stratégie qui a volé en éclats avec l'annonce d'un plan d'urgence pour l'hôpital. Le chef de l'État obligé, lui, de monter au front pour tenter de désamorcer cette grogne. Une parmi tant d'autres. Mercredi soir, tous les conseillers communication du gouvernement se sont retrouvés pour leur réunion bimensuelle. Consigne express a été passée à leur ministre d'éviter le catastrophisme, mais de ne pas nier les difficultés. Et surtout d'éviter les prises de parole intempestives, comme celle de Jean-Paul Delevoye sur les retraites la semaine passée. De la retenue, mais pour combien de sueurs froides à l'orée d'une nouvelle fin d'année explosive? grève. À l'Élysée, on se refuse pourtant à faire le parallèle avec la crise des gilets jaunes. C'était, selon un proche du président, l'expression d'un malaise de temps long, cristallisé autour du prix de l'essence. Alors que là, poursuit-il, on est sur un schéma plus classique porté par des catégories bien ciblées. Les cheminots en tête, et c'est ce 5 décembre qui occupe tous les esprits, surtout que les salariés de la SNCF toucheront leur 13e mois à ce moment, ce qui fait dire, non sans effroi à un ténor du gouvernement, que la grève pourrait durer longtemps.
Et des minages à tous les étages, Édouard Philippe annonce qu'il recevra tous les partenaires sociaux un par un la semaine du 25 novembre pour reparler de la réforme des retraites.
Il est 8h06, Florence, nous sommes mi-novembre et il a beaucoup neigé hier dans la vallée du Rhône.
Rien de particulièrement étonnant du point de vue du calendrier, si ce n'est une légère avance de l'hiver. Ce qu'il est, en revanche, étonnant, ce sont les conséquences de ces chutes de neige et ces 300 000 foyers privés d'électricité dans la Drôme, l'Ardèche, l'Isère et le Rhône. Au moins deux lignes à haute tension ont été coupées. Enedis, le gestionnaire d'électricité, déploie tous ses efforts pour rétablir la situation, comme l'explique Robin Devaugelaire-Pozeau.
Nos équipes ont de grandes difficultés à se déplacer sur les routes qui sont bien évidemment encombrées par ces chutes de neige. Nous avons déclenché la force d'intervention rapide d'électricité, c'est-à-dire des renforts qui viennent d'autres régions d'Enedis qui ne sont pas touchées par cette tempête et qui viennent aider nos collègues de ces départements. Dans la matinée, près de 1000 techniciens d'urgence électricité seront à même d'aider de ces foyers. Les ouvrages électriques se trouvent dans des endroits qui sont vraiment difficiles d'accès. Et donc on a besoin des autres services publics qui font leur meilleur pour pouvoir dégager ces accès, pour pouvoir remettre l'électricité.
Voilà, Enedis sur le pont pour essayer de rétablir la situation. Hier, un homme a été tué par la chute d'un arbre chargé de neige sur une route de l'Isère. Cette neige si lourde, elle ne tombe plus ce matin, mais elle a provoqué de nombreux dégâts sur les voies ferrées. Un TER a heurté un arbre qui était tombé sur la voie à proximité de Villars-les-Dombes. Le trafic est arrêté entre Bourg-en-Bresse et Lyon, indique la SNCF. On n'a pas plus de détails pour le moment et c'est tout le trafic de la région qui, de toute façon, est perturbé, Tiffany Ankoviak.
Les transports scolaires sont suspendus jusqu'à nouvel ordre en Haute-Loire. Ils ne sont pas assurés non plus ce matin dans la Loire. Difficile aussi ce matin de se déplacer en train. Le trafic est interrompu toute la matinée sur la ligne entre Saint-Étienne et Lyon, une des lignes TER les plus empruntées de France. Il est fortement perturbé aussi dans les secteurs de Roanne et du Puy-en-Velay. Quelques lignes de transport en commun sont aussi perturbées ce matin dans l'agglomération de Saint-Étienne. Sur la route, les conditions sont généralement bonnes, mais ça peut se compliquer sur les hauteurs, au-dessus de 700 mètres, dans les monts du Pila, du Forêt et du Lyonnais, où il a beaucoup neigé hier. Les équipements spéciaux restent obligatoires pour passer les cols. Les grands axes, eux, sont dégagés, mais pour l'instant, les arrêtés pris hier dans la Loire, comme dans la Haute-Loire, pour interdire la circulation des poids lourds, sont toujours en vigueur. Une centaine de poids lourds ont ainsi été stockés du côté de la Haute-Loire cette nuit.
Voilà, et dans l'Isère, on vient d'annoncer la reprise, la réouverture des autoroutes qui étaient fermé depuis la nuit dernière, fermé aux automobilistes.
France Inter, 8h09, Ségolène Royal, ambassadrice des pôles.
Que fait-elle de cette mission que lui a confiée Emmanuel Macron ? Une enquête de la cellule investigation de Radio France révèle ce matin que l'ancienne ministre utilise les moyens que le Quai d'Orsay met à sa disposition pour des travaux qui semblent loin de sa fonction. Nous publions sur Internet une vidéo qui montre les collaborateurs de Ségolène Royal l'assistant notamment dans des opérations de promotion de son livre ou au profit de sa fondation, car Ségolène Royal mène bien d'autres activités en parallèle. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Florence.
C'est vous qui publiez cette enquête en quatre volets sur Ségolène Royal, enquête à lire sur franceinter.fr. Que fait-elle d'abord, Sylvain, que fait-elle Ségolène Royal en tant qu'ambassadrice des pôles?
Examiner de près son agenda, ce n'est pas un plein temps. Pour elle, elle est souvent absente des instances où l'on fait la politique polaire. Elle n'est jamais allée au Conseil de l'Arctique. Elle n'est allée qu'une fois sur deux aux réunions du traité de l'Antarctique. Et cela agace un peu dans le petit monde des pôles, notamment la maire de Saint-Pierre, à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui a écrit récemment à Emmanuel Macron pour se plaindre que, malgré ses demandes, elle n'avait jamais pu la voir. Et voilà. Alors, qu'elle n'avait jamais pu la voir. Alors, elle n'a pas voulu et souhaité répondre à mes questions sur son agenda. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'elle a fait de nombreux voyages en zone polaire, ce qui est vrai, même si parfois on peut se demander dans quel but. Par exemple, en novembre 2017, elle est allée en Laponie. Elle a passé une journée avec un explorateur français, Gilles Elkaïm, et lui en garde un souvenir mitigé.
Je n'étais pas dans ses plans de parler environnement avec moi, puisqu'on n'a pas réussi de toute la journée, enfin, même si j'ai lancé la conversation à plusieurs reprises sur ce thème. Bon, je n'ai pas eu de retour là-dessus. malheureusement, parce que c'était une bonne occasion de parler des problèmes en Arctique, et Dieu sait s'il y en a actuellement, hein. Bon, je m'attendais à ce que ça soit une opération de communication, et ça l'a été, hein.
Bon, une opération de communication, parce que ce jour-là, Ségolène Royal était accompagnée d'une équipe de Paris Match et elle a fait la une de Paris Match avec un des chiens de traîneau, Gilles Caïm.
Sylvain Tronchet, merci. Enquête à lire sur franceinter.fr. Voici maintenant l'amendement qui fait hurler les écologistes. Voté sans débat à l'Assemblée nationale hier soir, il prolonge jusqu'en 2026 la niche fiscale dont bénéficie l'huile de palme au titre des biocarburants. Le dispositif devait s'arrêter l'an prochain. Sa prolongation va notamment profiter à Total, qui produit du carburant à base d'huile de palme dans sa raffinerie de la Med dans les Bouches-du-Rhône. Ce qui fait dire aux associations que le lobbying a encore de beaux jours devant lui. Sylvain Angeran est porte-parole des Amis de la Terre. Pour lui, c'est un scandale démocratique et écologique.
En réintroduisant cet avantage fiscal, les députés de la majorité, en fait, réaccordent 70 millions d'euros de cadeaux fiscaux à Total pour détruire la planète. Donc on marche véritablement sur la tête. 75% de l'huile de palme que l'on consomme, c'est dans nos carburants. Voilà. Et ça, c'est possible uniquement parce qu'il y a un mécanisme fiscal qui encourage à mettre de l'huile de palme dans les carburants. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, l'huile de palme, c'est trois fois pire pour le climat que du carburant fossile. Parce que la culture du palmier à huile, elle entraîne de la déforestation et elle entraîne un relargage massif de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Donc faire rouler les voitures avec de l'huile de palme, c'est une véritable catastrophe pour le climat et pour la biodiversité.
Là-bas, c'est la terre qui est polluée par l'arsenic. Un plan d'action pour la vallée de l'Orbiel a été annoncé hier soir par la préfecture de l'Aube, qui prévoit la reprise du confinement d'un site de stockage de déchets toxiques de l'ancienne mine de Salsigne. Une étude sur la surexposition des enfants, une autre sur la qualité de l'air. 11 enfants du secteur présentent des taux d'arsenic anormaux dans le sang. Le jeune homme lynché à Noisy-le-Sec la semaine dernière retrouvé mort loin de Seine-Saint-Denis. Son corps a été découvert près de Tours. Hier, il avait 17 ans. 4 personnes ont été arrêté dans cette affaire. Entre 4 et 5 millions d'étrangers illégaux en Europe, c'est une étude américaine qui en fait l'estimation. Les plus nombreux viennent de la zone Asie-Pacifique. Derrière eux, les ressortissants de pays européens qui ne sont pas dans l'Union, dont font partie les Géorgiens, déboutés de leur demande d'asile régulièrement en France. Leur arrivée a connu une hausse spectaculaire ces derniers mois. Ils sont les deuxièmes dans la liste des demandeurs d'asile, juste derrière les Afghans, Valérie Crova.
Au 1er octobre, 6500 Géorgiens avaient déposé une demande d'asile en France. C'est 52% de plus par rapport à l'année précédente. Pour expliquer ce phénomène migratoire, il faut remonter à 2017, quand l'Europe a permis aux ressortissants géorgiens d'entrer dans l'espace Schengen sans visa pour les voyages de moins de 3 mois. À cette facilité s'ajoutent d'autres facteurs que nous décrit Tornike Gordadze, enseignant à Sciences Po.
C'est un pays où le système de santé est en mauvais état. Un certain nombre de personnes viennent parce qu'ils sont atteints des maladies qui ne sont pas soignables en Géorgie ou qui coûtent extrêmement cher, et pendant que leur dossier de demande d'asile est instruit, ils peuvent recevoir la couverture de maladies universelles. C'est une réalité.
Pour tenter d'endiguer ce flux migratoire, la télévision géorgienne diffuse depuis peu de petits films qui montrent le retour de Géorgiens expulsés de France, et les départs sont de plus en plus filtrés aux aéroports.
Il y a des policiers européens qui vérifient les passeports et les documents, mais aussi tous ces papiers qu'on demande maintenant aux Géorgiens pour voyager en Europe.
La suppression de l'exemption de visa est difficilement envisageable, sauf à froisser une population pro-européenne. En conflit avec son voisin russe, la Géorgie espère bien devenir un jour membre de l'Union européenne.
Le gouvernement a annoncé, souvenez-vous, un délai de carence de 3 mois pour l'accès à la protection universelle maladie des demandeurs d'asile. À Gaza et en Israël, la trêve n'aura pas duré 24 heures. Nouvelle frappe israélienne cette nuit contre des cibles du djihad islamique dans la bande de Gaza. Plus tôt dans la journée, 5 roquettes avaient été tirées sur Israël. Joe Biden est un chien enragé qui mérite d'être battu à mort avec un bâton. Trop violent pour un tweet de Donald Trump contre le candidat démocrate à la Maison-Blanche. Cette attaque vient de Corée du Nord dans une dépêche de l'agence officielle de Pyongyang. On suppose que c'est le dernier clip de campagne de Joe Biden qui a provoqué cette déclaration, clip dans lequel il s'en prend à la politique étrangère de Donald Trump qui fait l'éloge des dictateurs et des tyrans, dit-il, sur fond de poignée de main entre Trump et Kim Jong-un. Il a 38 ans et encore tout son talent. Roger Federer a battu Djokovic au Masters de Londres. Ça faisait 4 ans que ça n'était pas arrivé. Le voilà donc en demi-finale du tournoi des 8 meilleurs mondiaux. Et puis pour continuer à parler sport, on n'a pas fait un bon match, Nicolas. On n'était pas dedans. Signé Antoine Griezmann qui a laborieusement vaincu la Moldavie 2-1 hier soir. De toute façon, les Bleus étaient déjà qualifiés pour l'Euro 2020.
Et on termine avec le rock, quand le rock est devenu punk à Londres.
Nous sommes en 1979, en pleine crise sociale, quand sort London Calling, double album des Clash. Il va si bien coller à son époque qu'il deviendra disque de platine aux États-Unis. Il n'a pas pris une ride depuis, c'est très net, dans cette exposition des 40 ans qui ouvre demain à Londres et que Mathieu Culeron a pu visiter dès hier soir.
C'est la basse cassée un soir de septembre 1979 dans la salle du Palladium à New York qui frappe en premier le spectateur qui se rendra au Museum of London. Paul Simonon, bassiste du Clash, a conservé cette relique pendant des années et provoqué la photo de Penny Smith qui deviendra la pochette d'un des disques les plus célèbres d'Angleterre. Robert Gordon McHarg est le commissaire de l'exposition.
Ce disque couvre tant de genres musicaux qu'ils se sont dit en fait qu'ils pouvaient faire n'importe quel genre de musique. Et je pense que cet album les a libérés pour le reste de leur vie.
London Calling parle du risque nucléaire, du chômage, des conflits raciaux. Margaret Thatcher vient d'être élue Premier ministre et Sid Vicious vient de mourir. Il est temps pour The Clash d'explorer d'autres pistes musicales. Paul Simonon est bassiste du Clash.
Joe adorait le bluesman Bo Diddley comme nous tous, mais moi, grâce à l'endroit où j'avais grandi, j'avais été plus que les autres connecté au reggae.
London Calling résonne avec l'actualité britannique du moment, comme le constate James Wrighton, ancien chanteur des Klaxons.
Cet album est dans mon top 5. Je voulais être dans The Clash enfant. C'est compliqué d'être anglais et fier de nos jours. Eux ont donné et donnent toujours de l'espoir à l'Angleterre.
L'exposition London Calling à Londres vient célébrer les 40 ans d'un album mythique. Une exposition que les trois membres ont exigée gratuite, car lorsqu'on est Clash un jour, on est Clash toujours.
London Calling en plein Brexit, on va rester dans le ton.
On va en parler dans quelques instants, effectivement.